L'heure de pointe, David Torchala.
Eh bien, bienvenue, bonjour à tous dans ce nouveau magazine de société de Radio Présence, l'heure de pointe. Voilà, donc vous qui nous écoutez dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers, dans le Béarn, ensemble, on va passer un petit peu de temps pour regarder l'actualité, voir découvrir de belles initiatives. Alors, le week-end arrive, c'est tout proche. Alors, si vous êtes en voiture, que vous êtes dans les transports, même si ça freine un peu avec vous, ben, on a le temps, on vous accompagne, on est ensemble. Si vous êtes dans la cuisine, c'est parfois aussi l'heure de pointe. Ouais. Et ça, c'est du vécu. Et ici, on sourit. On sourit parce que je suis avec mes deux chroniqueurs. Voilà, deux chroniqueuses. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, chroniqueur, chroniqueuse. Tout d'abord, Delphine Pereira. Bonjour, Delphine.
Bonjour, on peut dire chroniqueuse.
On peut dire chroniqueuse.
Ah. Oui.
Delphine, je veux bien la croire parce qu'elle a la plume. Delphine est journaliste pour la Dépêche du Midi. Elle a l'habitude d'écrire. L'actualité n'est pas un secret pour vous.
Pratiquement.
Et donc voilà, vous allez nous accompagner. Je me tourne maintenant vers Anne Deloy. Bonjour Anne.
Bonjour David, bonjour à tous.
Voilà Anne, merci aussi d'être avec nous pendant cette émission. Vous êtes une très 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 jeune retraitée d'une association de solidarité internationale, voilà, les OPM,
oui.
Les œuvres pontificales missionnaires.
Voilà, et puis je continue toujours, tout en étant retraitée, à être engagée autour de ce qu'est la solidarité internationale. C'est mon petit dada.
Oui, et puis vous avez fait aussi beaucoup, beaucoup de radio. Alors, ensemble, nous avons un invité aujourd'hui. Bonjour, Hervé Janson.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, Hervé Janson, vous êtes hôtelier à Lourdes, dans la deuxième ville hôtelière de France, après Paris. On dit que Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France. Vous nous direz si c'est toujours le cas. Vous êtes président de la société Hôtelsat, en exploitant de l'hôtel Paradis. Alors, Paradis à Lourdes, bah, vous nous direz si vous y croyez toujours. Nous, on y croit un petit peu. Et on fera connaissance tout à l'heure. Bienvenue dans cette émission. Et puis, voilà, on continue ensemble de discuter, et nous échangerons particulièrement sur l'industrie hôtelière à Lourdes et puis sa résilience, hein, face à la crise Covid, voilà, qui n'est pas très loin de nous. Et puis vous nous parlerez de cet été que nous avons tous vécu. Voilà, donc restez parmi nous, on continue avec l'heure de pointe.
L'heure de pointe, David Torchala.
Effectivement, aujourd'hui, on va regarder l'actualité, et celle qui domine est une actualité qui est grave. C'est ce séisme au Maroc qui, toute la semaine, a fait la une des titres. Et à ça s'est ajouté les inondations en Libye, avec un bilan humain qui dépasse l'entendement. On lit qu'on pourrait atteindre les 20 000 morts. Vraiment, c'est une actualité qui est lourde, et donc c'est, je pense, nécessaire pour nous de s'y arrêter. Effectivement, alors le bilan, c'est difficile de le voir, mais pourtant déjà la solidarité internationale s'exprime. Alors, pour le Maroc, évidemment, vous l'avez vu, le roi du Maroc n'a pas appelé directement le secours de la France, même si Emmanuel Macron a fustigé un peu toute idée de polémique sur l'aide humanitaire qui n'a pas lieu d'être, mais quand même, comment ne pas être solidaire face à cette crise, quoi.
Tout à fait. Et les initiatives n'ont pas non plus attendu ni Emmanuel Macron ni le roi du Maroc. Et les gens se sont très très vite mobilisés un petit peu partout, et en particulier dans le département, parce qu'il y a de nombreuses initiatives dont Anne va nous parler, je suppose. Et moi, je voulais en rajouter une, parce que j'ai eu dernièrement une dame qui s'appelle Fabienne Delannoy, et qui était en vacances au Maroc du 2 au 9 septembre, et qui a vécu évidemment de l'intérieur. Elle était à Marrakech. Et elle a réussi à rentrer grâce à son agence de voyage. Le vol avait été maintenu. Et en arrivant ici, elle m'a dit, moi, je ne me vois pas rester les bras croisés, parce que ces gens-là, qui ont été tellement gentils avec nous, Ils ont besoin. Moi, j'ai retrouvé ma maison, mon confort, mais il faut que je fasse quelque chose. Et donc, elle est du côté de Lannemezan, à Escala, précisément. Et dimanche matin, à partir de 10h jusqu'à midi, elle organise une collecte. Donc, c'est des dons financiers. Elle explique qu'il faut... c'est un chèque, évidemment, pour que les gens soient sûrs que ça arrive là où ça doit arriver.
Ah oui, ça, c'est vrai. Et puis, en plus, il faut être vigilant. Hein,
voilà, très. Et elle l'organise avec le Secours Populaire, parce qu'elle n'allait pas l'organiser toute seule. Et donc, bon, moi, j'invite tous vos auditeurs à aller lui rendre une petite visite ou l'appeler, parce que, d'ailleurs, je fais un petit peu de publicité. Il y aura un article dans la Dépêche samedi. Il y aura toutes les coordonnées. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça. Et que c'est aussi bien de voir les gens... parce qu'on dit qu'actuellement, les gens sont très individuels, individualistes. Ils ne pensent qu'à eux. C'est pas vrai. Il y a encore des gens qui pensent aux autres et qui font ça gratuitement.
Oui, ça, c'est vrai. C'est quand même l'expression du cœur. C'est quand même sidérant ce que vous nous racontez. Cette personne qui était en vacances et qui revient et qui décide comme ça d'ouvrir ses portes. Des initiatives comme ça, Anne, vous avez regardé et il y en a...
Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Parce qu'on se rend bien compte à chaque fois qu'il y a des catastrophes qui sont annoncées, que les médias nous informent, tout ça, on voit bien qu'il y a un élan de générosité très rapide dans les heures qui suivent. Et là, effectivement, il faut dire aussi que le peuple français aussi a une très grande proximité avec le peuple marocain. Déjà, même avant de parler d'initiative locale, moi, tout de suite, quand j'ai su ce qui s'était passé là, dans la nuit de vendredi à samedi, où une tire de ce séisme, m'est revenu, alors que je n'ai pas de lien direct avec le Maroc, mais m'est revenu, par exemple, à souvenir d'il y a même 30 ans, d'un lien que j'avais avec une famille marocaine qui habitait dans la région de Nancy. Et avec des amis, j'avais demandé à cette famille de nous apprendre, par exemple, à faire le couscous. Et de cet après-midi où Zora nous a appris à faire le couscous, on était quelques amies françaises heureuses de d'éplucher les légumes, de faire des choses ensemble. Bachir, le mari, qui nous a fait le thé à la menthe. Mais vous voyez, c'est un souvenir qui était enfoui en moi depuis presque 40 ans. Et là, samedi, en apprenant cette nouvelle, et je sais que... Je vois bien que les Français, avec les liens qu'on a avec des franco-marocains ou avec des Marocains qui vivent à proximité de nous, là, ici en France, il y a une grande empathie pour le Maroc.
Oui, bon. C'est vrai, c'est vraiment un peuple,
ça, c'est formidable.
L'amitié de la France. Voilà. C'est vrai, vous avez entièrement raison.
Et donc, je trouve que, même je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs peuvent se souvenir de liens qu'ils ont eus à un moment donné de leur vie, et puis qu'ils ont peut-être encore avec nos frères et sœurs du Maroc. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu, en lisant les journaux de la région ces jours-ci, nombre d'initiatives locales, citoyennes, sont prises. Alors, c'est sûr qu'on pense tout de suite à des initiatives pour aider la première urgence, les premiers secours. On veut apporter du matériel, on veut... Et dans plusieurs endroits, alors je pense par exemple à Pau, à un centre social, le centre social du Hameau, qui a tout de suite mis à disposition d'associations sportives ou culturelles une salle pour que les gens puissent venir apporter, alors en premier, du matériel. Des couvertures, des tentes, être là, parce qu'après, ils veulent organiser des convois pour pouvoir transporter ce matériel. Donc, des associations sportives se mobilisent, des associations socioculturelles. Dans un autre endroit, je crois, toujours dans le Béarn, à Mourenx, c'est carrément le maire qui va lancer sur Facebook un appel et dire qu'il faut aider les Marocains. Si vous avez des choses, on va mettre aussi en place une salle pour que les gens puissent venir faire donner des choses, quoi. Alors après, c'est sûr, il y a aussi un appel, et je crois qu'il y a beaucoup de grandes associations qui disent, plutôt que de donner du matériel, aidez-nous financièrement. Parce que financièrement, si vous apportez des dons, nous, on va pouvoir du coup faire transférer ces dons dans des associations là-bas au Maroc pour aussi faire vivre l'économie locale.
Oui, évidemment. Et puis aussi, comment aussi cerner les besoins. Parce que là, on est quand même à quelques jours. Et donc, il faut arriver à faire un bilan et puis comprendre les besoins essentiels. Il y a aussi des urgences qui peuvent être psychologiques. Je suis content, Anne, que vous ayez parlé de Mourinx, parce que vous savez que je suis originaire de là-bas. Et donc, effectivement, quand vous avez parlé d'amitié, j'ai aussi appelé, moi, mes amis marocains de Mourinx, parce qu'il y a une très, très forte communauté, très belle communauté à Mourinx. Et je ne suis pas du tout étonné qu'ils expriment comme ça leur générosité.
Et j'ai vu aussi, justement, c'est du côté du Gers, à Mazeub, une association qui existe déjà, une association, on va dire, franco-marocaine, ASMA, Association de solidarité Maroc. Donc, une association qui existe déjà depuis des années, parce qu'ils essayent de mettre en place des soutiens pour des projets, pour aider des familles à vivre dans dans des coins peut-être un peu perdus du Maroc, qui ne sont pas sur des grandes villes touristiques, qui sont des fois un peu loin des échanges économiques, etc. Et donc, c'est une association qui essaye toujours de permettre à des familles de vivre sur place là-bas, en développant des choses autour de l'éducation, autour peut-être des projets agricoles ou d'élevage. Et cette association, du coup, c'est relancer fortement là pour quand même faire de l'aide de première urgence, mais en se disant il faut aussi réfléchir à la reconstruction. Et ça, c'est aussi je crois que c'est au niveau de la mosquée à Tarbes. Ils se sont réunis parce qu'ils se disent on va peut-être pas tout de suite aider pour des premiers secours, mais il nous faut vraiment aider à la reconstruction. Et ça va prendre des années. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est chouette, c'est que je trouve, malheureusement, cette grande catastrophe permet aux gens de se remettre en lien, de se remobiliser, de vivre dans une certaine, on va dire, presque fraternité, au-delà des différences même politiques, religieuses, etc., mais pour l'humanité, quoi. Et ça, c'est très important.
Oui, vous avez raison. Vraiment, il faut encourager toutes ces initiatives qui sont nombreuses et qui sont toutes proches de nous. Et puis aussi, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut éviter aussi de donner parfois à des escrocs un peu scrupuleux et désireux de profiter aussi de la catastrophe pour s'enrichir. On le sait, il y en a. Et donc, vraiment, renseignez-vous au moment où vous exprimez votre générosité un peu en amont sur les organismes qui appellent à la générosité et pas comme ça non plus envoyer de l'argent tout en sur le coup de l'émotion. Quand même, rappelons, il y a aussi des organisations de référence, la Fondation de France, vous avez parlé du Secours Populaire.
Voilà, oui.
Français, la Croix-Rouge, l'UNICEF.
C'est des associations qui ont pignon sur rue, qui n'ont plus à prouver leur efficacité. Alors je crois que quand on veut donner, il vaut mieux passer par des organismes comme ça, parce qu'au moins on est sûr que ça va arriver, plutôt que d'aller choisir quelque chose. On ne connaît pas trop le nom, mais on nous dit qu'on va faire quelque chose.
Oui, c'est les cagnottes.
Donc il vaut mieux toujours tabler sur des valeurs sûres, même en matière de solidarité.
Et surtout, ces organismes, on va dire nationaux, ont souvent des relais dans nos régions. Par exemple, le Secours Populaire. Je sais que le Secours Populaire du Gers, justement, a déjà un gros travail au niveau collecte. Et c'est vrai que c'est des organismes auxquels on peut participer, on peut donner, parce que on sait qu'après, ils ont étudié aussi sur place, ils ont leur réseau sur place. Vraiment, il y a les acteurs locaux au niveau du Maroc qui sont des bonnes références, quoi. Enfin, il faut... comme David disait, il faut vraiment faire attention là où on envoie l'argent.
Oui, souvent, ils ont quand même aussi des structures qui sont des structures qu'on pourrait appeler sœurs sur place, comme la Croix-Rouge avec le Croissant Rouge et les choses comme ça, qui eux, savent ce dont ont besoin les gens et qui peuvent faire le relais efficacement pour que toute l'aide arrive au bon endroit et au bon moment.
Oui, évidemment. Et puis en plus, pour faire un don pour la Libye, effectivement, nous ici, il y a des communautés marocaines qui vivent. Donc c'est proche de nous. Donc des initiatives naissent ici en local. Mais voilà, vraiment, fions-nous aux organismes comme ça, des organisations de référence, voilà, que nous avons citées. Merci Anne, dis donc, vous avez vachement travaillé. Hein, vous avez regardé,
balayé
tout notre départ. département des initiatives. Elles sont certainement nombreuses, encore d'autres. Et donc, si vous nous entendez, faites-nous connaître les initiatives qui sont prises proches de chez vous. Un tout autre sujet, mais c'est quand même une belle initiative, une belle découverte. Delphine,
oui, tout à fait.
Parlez-nous de ce petit trésor que vous avez découvert.
Une jolie découverte que j'ai faite il y a une dizaine de jours, où j'ai été invitée à la centrale pénitentiaire de Lannemezan, qui est une centrale où sont purgées les longues peines. Et c'est le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion, de probation, qui a organisé sur plusieurs mois, presque deux ans, un travail auquel les détenus étaient conviés. Il n'y avait aucune obligation, c'était sur volontariat. Et entre parenthèses, avec un très bon coordinateur qui malheureusement a terminé son contrat et qui ne sera pas renouvelé au grand désespoir des dames du SPIP, puisque ce ne sont que des dames qui sont là-bas. Et il s'agissait de faire un livret. Un livret, bon, on ne le verra pas, on n'est pas à la télé, mais je l'ai amené ici parce que c'est une œuvre originale et donc qui a été réalisée entièrement par des détenus. Et ils ont été une dizaine sur tous ces mois à se relayer jusqu'à la reliure et l'illustration a été faite par une artiste qui venait aussi, un écrivain venait pour retoucher
les textes. C'est
un
livret, mais donc c'est de l'écriture, oui. Donc des détenus qui ont écrit.
Voilà, et alors le thème était « Toucher l'horizon de ses ailes ». Et le thème a été retenu parce que j'ai appris, et je me dis que je fais un beau métier parce que j'apprends tous les jours quelque chose et chaque soir je me couche moins bête que le soir précédent. Et un détenu a quasiment apprivoisé à 1000 ans, qui vient les voir, qui vient, qui mange trois bouts de pain, et ça fait des mois et des mois qu'il vient.
À la fenêtre de la cellule,
voilà.
Le 1000 ans.
Exactement.
S'approche. Incroyable.
Et donc, ils sont partis de cette jolie histoire. Et sur des mois entiers, bon, je ne vais pas vous faire tout, parce que sinon, je vais prendre tout le temps qui nous est imparti. Il y avait donc la découverte de l'oiseau, des rapaces des Pyrénées, avec des spécialistes qui sont venus, dont le CPIE. La rencontre avec le Milan Royal. Donc, ça fait que tous ces détenus ont pu, comme ils disaient, s'évader, entre guillemets.
Oui.
Grâce à ces intervenants qui sont venus à l'intérieur de la centrale. Et ils ont également eu une sélection d'ouvrages à lire sur notamment la mythologie, des choses comme ça très... très parce que les personnes du SPIC m'expliquaient que la culture était quelque chose de très important quand on est enfermé, surtout sur de longues années, parce que c'est un contact avec le réel. Et ces gens qui sont enfermés, peu importe ce qu'ils ont fait, ils perdent ce que pour nous est tout à fait naturel, ouvrir un livre, aller au cinéma, caresser un chien, parce qu'il y a des programmes aussi comme ça, ou passer l'après-midi à voir une poule qu'on leur a amenée, etc. Et c'est plein de petites choses mises bout à bout qui rompent l'isolement de ces gens-là. Et l'un d'eux me disait... ça nous a changé parce qu'on a des activités, parce que les longues peines ont des activités jusqu'à des cursus universitaires, mais c'était autre chose. On a rencontré des gens, donc un écrivain qui est venu pour rectifier les textes, ce qui n'est pas toujours évident pour quelqu'un de se voir retoquer, etc. Et ils ont donc produit ce petit livret qui s'appelle « Il était un envol ». Et qui est remis aux médiathèques du département.
Ah oui, c'est un livret qui est assez, assez conséquent, illustré.
Il est illustré, il y a des textes, et il y a un poème qui a été écrit par celui qui a gagné. Il a
ah, parce qu'il y avait un concours.
Oui, alors à la base, le concours, le prix était un essai, un vol en parapente et qui n'a pas pu se faire pour X ou Y raison. Et donc, il a eu le droit de mettre un poème dans ce petit livret qui sera même envoyé à Madame Macron.
D'accord.
Voilà. Donc il sera disponible dans les médiathèques pour les gens, si les gens sont intéressés, normalement à Lourdes, à Tarbes, à Bagnères, à Lannemezan, il sera un petit peu partout si on veut le consulter parce qu'il a été tiré à 60 exemplaires.
Et Delphine, alors vous pensez qu'il pourra peut-être être édité en plus grand nombre, c'est-à-dire que vous allez peut-être trouver un éditeur intéressé pour le faire connaître parce que ça serait une initiative extraordinaire.
Peut-être, qui sait, mais là tout a été fait à l'intérieur.
Voilà.
Vous le voyez même dans, il a été relié à la main.
Oui.
Et tout a été vraiment fait à l'intérieur de la centrale, donc peut-être, sait-on jamais.
Si un éditeur nous entend.
Oui. Et puis si les détenus aussi de la centrale de Lannemezan nous entendent, bravo, vraiment, c'est très émouvant de tenir ce livret entre nos mains, de voir ce coup humain, ce choix de l'envol, voilà, ouais, c'est vraiment émouvant d'avoir ça entre nos mains.
Ça fait quelques petits jeux de mots sur l'évasion,
oui.
Ah bah oui, et le retour quand même.
Merci beaucoup.
Un bel envol.
Merci Delphine de nous faire partager cette belle initiative. Et puis, il y en aura plein d'autres dans cette émission. L'heure de pointe, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.
Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est le miel, c'est son sang qui coule dans mes veines. Et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
L'heure de pointe, David Torchala.
Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'heure de pointe, ce nouveau magazine de société proposé par Radio Présence. Je suis en compagnie de nos chroniqueurs, de nos chroniqueuses, Delphine Pereira.
Nous sommes toujours là.
Elle est toujours là, voilà, journaliste à la Dépêche du Midi. Anne Deloy.
Avec plaisir.
Anne Deloy qui est là, voilà, qui est retraitée d'une association internationale de solidarité. Nous venons de décortiquer l'actualité, évidemment dominée par le séisme et les terribles inondations au Maroc et en Libye. On vient de partager sur cette magnifique initiative du centre pénitentiaire de Lannemezan avec l'édition d'un livret « Il était un envol » écrit par les détenus. Mais nous avons avec nous aussi notre invité, Hervé Janson. Voilà, on s'est présenté tout à l'heure, on va entendre maintenant le son de votre voix. Hervé Janson, je le disais, vous êtes hôtelier à Lourdes et vous êtes l'exploitant de l'hôtel Paradis à Lourdes. Alors, première question, est-ce que c'est... on vit un petit peu dans le paradis quand on est à Lourdes, quand on est hôtelier?
Écoutez, nous sommes très heureux ici à Lourdes. Nous sommes arrivés il y a 10 ans, exactement. Ouais.
Vous étiez où avant d'arriver à Lourdes ?
Avant, j'ai travaillé pendant 30 ans à Paris pour le groupe Accor, où j'ai eu différentes fonctions. Et puis, la vie, j'étais très gâté là où j'étais. Et puis, la vie, les rencontres ont fait que j'ai eu cette opportunité de avec ma femme, de venir à Lourdes. Et donc, on a fait ce qu'il fallait... le montage financier, etc., l'acquisition de l'opération, le montage. Et nous sommes arrivés donc en janvier 2013. Là où nous n'avons pas eu de chance, c'est qu'il y a eu en 2013, rappelez-vous, en juin,
l'inondation.
Donc on a été baptisés immédiatement. Voilà, donc ça a été compliqué parce que quand vous arrivez... On fait ce qu'on appelle le business plan, il est complètement à revoir, tout est à la poubelle.
Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, quand on voit l'hôtel Paradis, il borde vraiment le gaffe de Pau dans l'avenue.
C'était le premier servi.
Ah oui, l'avenue Paradis qui porte le même nom. Et donc les destructions étaient, enfin les images étaient
absolument. Vraiment. Voilà, bon, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Oui. Nous avons pu reconstruire dans les conditions qui convenaient. Mais nous n'étions pas les seuls touchés, parce que le parc hôtelier a été sévèrement touché. Lors de ces événements. Et puis après, bon, tout le monde est reparti, un petit peu comme ce qui s'est passé après le Covid, où actuellement tout le monde repart, l'activité redémarre, les pèlerins viennent nombreux. Donc ce sont des signes extrêmement positifs pour la destination, pour Lourdes.
C'est vrai que à Lourdes, ben, on le sait, on le voit, on parle du, voilà, c'est le retour des pèlerins. Donc vous avez vécu un bel été. Comment vos équipes, parlez-nous un petit peu de l'été que vous avez vécu.
Écoutez, je crois que nous, en ce qui nous concerne et mes collègues hôteliers, nous avons eu une belle saison. Là, nous sommes sur la dernière partie de cette saison, mais cette saison est effectivement renoue avec les niveaux d'activité que nous avions antérieurement avant le Covid. Il y a effectivement des évolutions qu'on peut noter, que tous ici à Lourdes, nous notons beaucoup de clientèle individuelle qui est en très très forte croissance.
Et ça, est-ce que c'est un changement? Parce qu'on parle Covid, c'est un peu un repère. Il y a quand même un avant et un après Covid.
Très clairement, oui.
Et quel est l'impact, en fait, pour vous dans votre... Vous parlez des individuels, mais...
Alors, c'est des impacts très concrets dans nos entreprises. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en termes de service, ce qu'on appelle la servduction, la façon dont on rend le service au client. Il est vrai qu'accueillir un groupe, c'est très différent que d'accueillir un individuel, une famille, etc. Ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes besoins. Donc ce ne sont pas les mêmes organisations. Donc on doit se remettre en cause dans la façon de faire pour pouvoir satisfaire les deux clientèles, les faire cohabiter aussi, parce que c'est pas forcément facile. Mais donc ça, ce sont des changements importants. On voit aussi, j'en parlais avec mes collègues il y a quelques jours, des phénomènes nouveaux d'une forme d'atomisation des groupes, c'est-à-dire beaucoup de petits groupes qui émergent, des groupes de 10, de 15, de 20 personnes. Donc ça, ce sont des phénomènes, des tendances un peu nouvelles qui émerge après le Covid, si vous voulez.
Oui, parce que c'est vrai que Lourdes, alors Delphine, vous avez souvent étudié cela, c'est quand même un tourisme, on va dire, un peu de masse quand même, donc c'est grand pèlerinage.
Tout à fait, et je me rappelle qu'après le Covid, on entendait beaucoup parler de diversification, de choses comme ça, mais je crois que Lourdes reste Lourdes, et Lourdes reste le sanctuaire de Lourdes, et je crois qu'on l'a vérifié cet été, parce que même s'il y a un changement de physionomie, comme disait Monsieur Janson, sur les groupes, sur les personnes, même leur origine, même des fois les endroits d'où ils arrivent, des fois qui sont assez lointains, je crois que le cœur du voyage à Lourdes reste la même chose. Je veux dire, les gens viennent toujours à Lourdes parce qu'ils viennent chercher quelque chose au sanctuaire.
C'est clair.
Et je crois que c'était une bonne surprise cette année pour tout le monde, je pense, parce que la reprise, évidemment, on l'attendait, mais pas aussi vite.
Absolument. Et il est clair que tous nos clients, ou la très, très grande majorité de nos clients dans nos hôtels, viennent pour le sanctuaire. Et effectivement, on a observé cette saison des diversités de clientèle. On voit de tout. Toutes ces personnes qui viennent à Lourdes viennent chercher quelque chose. Et c'est très intéressant, ce phénomène qui se passe.
Oui, c'est même plus une question de croyance, je crois. Oui. Moi, j'ai souvent, depuis que je suis ici, et ça fait quand même un petit moment, quand on fait des reportages au sanctuaire, on rencontre des gens qui viennent, qui sont touchés, qui ne savent pas dire pourquoi, et qui ne sont pas forcément croyants, pratiquants, mais ils trouvent quelque chose et ils reviennent.
Et ça, Anne, vous confirmez aussi, vous qui connaissez bien le lieu.
Je confirme, mais je me demandais exactement si, lorsqu'on reçoit vraiment une clientèle, surtout de pèlerins, dans un hôtel, donc au niveau même de la relation avec l'équipe hôtelière, est-ce que c'est différent de recevoir que des touristes ? Si on reçoit des pèlerins qui sont des fois un peu touristes, que simplement des touristes ? Est-ce qu'on a une relation différente ?
La relation, nous on fait notre métier, si vous voulez, mais les attentes des clients sont différentes.
Oui.
Typiquement, vous avez on a reçu cette année, cette saison, des familles, des individuels qui viennent, qui disent « bon, c'est où la grotte ?» Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire là-bas à la grotte ? Donc on a travaillé avec le sanctuaire ces derniers mois pour apporter ce service. Nos hôtels sont équipés, dotés de flyers. Il y a une application qui vient d'être mise en place par le sanctuaire qu'on est en train de promouvoir, justement pour donner ces informations. Il y a une différence entre l'individuel qui vient à Lourdes pour, comme on l'a dit, parce qu'il veut venir au sanctuaire, versus le groupe organisé, qui est parfois constitué de personnes qui viennent régulièrement ou qui reviennent maintenant après Covid. Donc ce ne sont pas les mêmes attentes, ce ne sont pas les mêmes objectifs.
Oui, il y a d'autres choses à leur proposer cela.
Voilà. On voit quand même qu'il y a un modèle, il y a quand même une mutation. Alors, on l'a dit, vous êtes professionnel, vous êtes vraiment aussi derrière le comptoir et tous les jours avec une grande équipe et toujours une grande joie quand vous nous accueillez. Mais vous êtes aussi un observateur avec votre implication au sein du syndicat hôtelier GHR Pyrénées. Est-ce que vos collègues de la profession, comment vont-ils ? Est-ce que l'industrie hôtelière de Lourdes, comment se porte-t-elle ?
À travers ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, il y a un redémarrage donc, de la place de Lourdes au niveau de l'hôtellerie. Donc ça, c'est un signe extrêmement fort. Les tendances sont plutôt prometteuses pour le futur, donc ça réconforte. Donc l'hôtellerie à Lourdes redémarre, c'est un point majeur. Et effectivement, nous étions tous très inquiets pendant le Covid. Nous étions à l'arrêt pendant deux ans et demi. Mais là, l'activité redémarre et elle est partagée par la grande majorité de mes collègues.
Ah, ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et, en fait, au début de la saison, on entendait quand même, mais à la fois dans le parc hôtelier de Lourdes, mais aussi sur toute l'activité hôtelière, notamment, je pense, sur les côtes et puis en montagne, il y avait quand même cette difficulté de trouver des saisonniers. Est-ce que ça, c'est comment s'est passé ce recrutement des saisonniers ? Est-ce qu'il en a manqué ?
Alors oui, effectivement, nous avons commencé la saison de mémoire avec 400 postes non pourvus dans le secteur des CHR, c'est-à-dire café, hôtel, restaurant à Lourdes, ce qui est absolument considérable. Donc la conséquence de ça, c'est que Effectivement, c'est au niveau des chefs d'entreprise qui ont cette responsabilité de constituer des équipes, de recruter, etc. Ça a été pour eux, pour certains, très difficile. Donc ça crée une tension. Et le challenge numéro un que nous avons ici à Lourdes dans notre profession, c'est le sujet de l'emploi, c'est le sujet des saisonniers. C'est un point sur lequel nous sommes extrêmement impliqués, qui est un sujet général, qui n'est pas un sujet spécifique à Lourdes. On le retrouve partout au niveau national. Dans notre organisation, le GHR, on parle de 350 000 à 400 000 emplois non pourvus en France dans notre secteur d'activité. Donc on est vraiment sur des particularités très spécifiques. Il n'y a pas que notre secteur d'activité qui sont touchés. Mais dans notre cas, nous avons un vrai sujet ici à Lourdes sur l'attractivité de la destination Lourdes pour les saisonniers. Nous y travaillons, mais il faut que l'ensemble des parties prenantes de la destination se mettent autour de la table et avancent sur ce sujet. Nous avons des atouts. Lourdes a de très nombreux atouts pour accueillir des saisonniers. D'abord, on a une saison qui est longue. Je vous rappelle que la saison à Lourdes, c'est globalement de Pâques à la Toussaint. Donc c'est effectivement plus long qu'une saison estivale au bord de la mer ou à la montagne. Donc nous avons des atouts. Nous avons un immobilier qui n'est pas cher, mais le sujet fondamental, c'est le logement. Donc il faut qu'on travaille là-dessus avec toutes les parties prenantes. Il y a beaucoup de volonté, mais je considère qu'on n'est pas encore passé à l'action sur le sujet du logement et des services associés à l'accueil de ces personnes ou de ces familles qui aimeraient venir travailler à Lourdes.
Oui, il y a les transports aussi, sûrement, bien sûr. Garde d'enfants, certainement. Absolument. Aussi, pour Absolument. Des horaires qui sont un peu atypiques dans l'hôtellerie et la restauration. C'est sûr que le chemin est encore un petit peu long.
Absolument.
Oui, mais on voit quand même une industrie hôtelière qui a quand même un horizon qui se dessine en face, et donc la crise est un peu plus loin. On a parlé de la saison. Effectivement, les saisonniers ont la possibilité ici, j'imagine, de remplir aussi avec les stations de ski. On n'est qu'à quelques kilomètres. Mais pour autant, est-ce qu'il est possible de venir dans les hôtels en dehors de la saison?
Sur la place de Lourdes, il y a toujours un ou quelques hôtels ouverts en dehors de la saison. Donc il y a toujours une réponse hôtelière à la demande du client qui souhaite venir à Lourdes hors saison. Et puis, vous savez, nous sommes dans des entreprises extrêmement agiles et réactives. C'est-à-dire que nos hôtels sont ouverts pour la saison, mais en dehors de la saison, s'il y a des demandes particulières, nous sommes en capacité d'ouvrir nos établissements. C'est le cas du mien, mais je ne suis pas le seul. De nombreux collègues ouvrent leur établissement quand c'est nécessaire.
Est-ce que vous pensez que étendre la saison des pèlerinages annualisés, quelque part, la présence des pèlerins à Lourdes, alors, peut-être d'une autre manière, est-ce que vous pensez que c'est une perspective de développement?
Nous, notre souhait d'hôtelier serait d'être ouvert toute l'année, 365 jours par an, avec un taux d'occupation de 80% ou plus. Donc ça, c'est le monde idéal. Alors, effectivement, ce sujet que vous soulevez, David, est un point important. Nous sommes extrêmement favorables à cette ouverture. Mais nous ne pourrons le réussir collectivement que par ce que j'appelle les développements par effet de bord, c'est-à-dire ouvrir plus tôt, fermer plus tard, par l'apport de clientèle nouvelle. Et non pas en faisant bouger des clientèles qui viennent normalement en saison, les faisant venir hors saison. Parce que là, ça poserait un problème économique insurmontable pour nos entreprises. Donc en résumé, oui à l'allongement de la durée des saisons, mais ça ne se fera que par étapes. Donc ouvrir plus tôt, fermer plus tard, avec des clientèles nouvelles.
Bon, ce que Hervé Janson nous dit, c'est que venez à Lourdes, on vous accueille.
Absolument.
À toute saison.
Merci beaucoup Hervé Janson d'être venu dans ce magazine L'Heure de Pointe, voilà, pour échanger à la fois sur votre travail, nous donner aussi des nouvelles de l'hôtellerie à Lourdes et puis largement de ce secteur d'activité dans le sud-ouest. Mais la saison n'est pas finie encore, vous l'avez
Absolument.
Dit, encore jusqu'en octobre et début novembre, il y aura de grands rassemblements. C'est aussi le week-end qui approche pour nous. Ah, j'ai l'impression que Delphine est contente de
ton week-end. Oui.
Vous avez prévu de vous promener. C'est les journées du patrimoine ce week-end.
C'est les journées du patrimoine, mais aussi du patrimoine vivant. Alors, c'est ce que je voulais dire, parce que je trouve l'animation et la manifestation assez sympathique. C'est la fête de la race lourdaise. Alors, c'est des vaches, c'est des brebis. Et c'est tout le week-end au Tidos, à Lourdes. Il y aura plein d'animations, dont l'élection de Miss Vache.
Oh, ça, c'est sympa, on va aller voir ça.
Donc, pas de défilé en maillot, pas de vache qui va vous dire qu'elle veut sauver le monde, mais... D'accord. Il y aura la plus jolie vache lourdaise qui sera élue ce week-end.
Au Tidos, ça c'est en ville, c'est ce week-end, ça c'est à voir. Alors vous serez à l'élection de Miss Vache.
J'espère bien.
Bon, vous nous raconterez. Hein. Vraiment, on va voir ça. Prenez des photos aussi. Et vous, Anne, qu'est-ce que vous faites
ce week-end? Moi, j'aurais presque envie d'aller voir le jardin botanique qui se trouve au château fort, justement, à Lourdes.
Parce tout le monde reste à Lourdes ce week-end.
Je l'ai vu il y a déjà plusieurs années. Je sais que là, il va être ouvert et qu'il y aura certainement échange avec le jardinier. C'est l'occasion de retrouver, de revoir peut-être des plantes que je ne connais pas. Puis ce que j'aime bien aussi au château fort, quand j'y suis allée il y a déjà plusieurs années, c'est la superbe vue qu'on a sur l'ensemble de Lourdes et de ses environs. Donc je crois que moi je ne vais pas trop compliquer la vie, ça va être un petit tour au jardin botanique.
Et pour ceux qui sont les plus vaillants, il y a aussi, je vais le faire en anglais, la World Day Clean Up, c'est-à-dire le nettoyage de la nature, c'est demain, samedi, et le rassemblement est prévu, il me semble, autour de 9 ou 10 heures du matin au Palais des Congrès, et on prend son petit sac, sa petite pince, et on va nettoyer plein d'endroits comme ça, sur la voie verte ou ailleurs, et on donne un petit coup de main à la nature.
Moi, c'est ça, c'est magnifique, parce que vous voyez, vous restez à Lourdes, moi j'avais prévu d'être j'ai cherché des champignons, c'est la saison. J'ai envie d'aller me promener.
Avec les enfants.
Ah oui. Bah écoutez, je vous dirai la prochaine fois, dans la prochaine édition, si on l'a trouvé. Merci beaucoup Anne Deslois, merci Delphine Pereira, merci Hervé Janson. On se retrouve dans l'heure de pointe, dans notre prochain rendez-vous. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
L'heure de pointe, David Torchala.